Alors nous voici ici aujourd'hui pour parler un petit peu de la famille. D'abord, il faut que je vous avoue plusieurs choses, une confession publique. D'abord, je suis très heureux que vous êtes si nombreux, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait une surprise, mais en bien. Deuxièmement, je n'ai pas beaucoup d'expérience de la famille, à part que j'ai vécu dans une famille. Et je vois les familles en tant que prêtre. J'étais dans une école en Angleterre, donc j'avais affaire avec les familles. Mais je ne suis pas bien vieux, vous le voyez. Mais je crois quand même que ça vaut la peine de toucher un mot à ce sujet, ce thème, la famille. Parce que je vis la famille se trouve en difficulté de par les choses qui se passent dans le monde et dans l'Église. La famille est en difficulté. Et donc il faut revenir peut-être à quelques notions de base de la famille chrétienne. Et c'est pourquoi j'ai choisi comme thème école de vie et école de vertu. Donc j'ai simplement l'espoir d'apporter un peu de soutien aux familles, pas plus. Ce n'est pas une synthèse que je vais faire de la famille, ce n'est pas, comme dirais-je, une étude théologique, philosophique, tout ce que vous voulez. Non, c'est un soutien, je l'espère, pour les familles, avec quelques idées que j'ai trouvées d'ici et là, tirées, rassurez-vous pas de moi-même, mais des papes et aussi tout simplement des familles chrétiennes, des saints, et des auteurs spirituels. Donc je vais tirer la plupart des textes de sa sainteté, le pape Pie XII, qui avait parlé énormément au sujet de la famille. Souvent, les jeunes époux venaient le visiter donc à Rome ou ailleurs, et ils faisaient un petit entretien avec ses familles. Ils parlaient beaucoup avec les familles. En plus, je vais citer quelque chose du père Carmel, dont ce livre selon l'Évangile, et sinon quelques extraits du livre de Frère Michel de la Sainte Trinité, Fatima, Joie Intime, Événement Mondial, pour des exemples des familles chrétiennes qui ont existé et qui, grâce à Dieu, existent encore. D'abord, il faut définir les termes. Pourquoi la famille, école de vie et de vertu? Parce que c'est dans la famille, c'est par la famille, que le bon Dieu veut nous donner la vie. Peut-être quelque chose qui est évident, mais il faut le rappeler aujourd'hui, la famille c'est pour la vie, c'est pour donner la vie naturelle, la vie surnaturelle. C'est là aussi, dans la famille, que le bon Dieu veut nous apprendre la vertu, savoir le connaître, l'aimer, le servir ici-bas, afin de le posséder pour toute l'éternité dans le ciel. Dieu veut sanctifier toute la vie humaine, la faire participer par la grâce à sa vie divine. Et la famille est inclue. Et la famille est instrument de ce don de la vie naturelle et surnaturelle. Donc la famille, c'est quelque chose d'énorme. On dit en latin, rassurez-vous, c'est la seule citation en latin dans la conférence, « Bonum est divisivum sui ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bien doit se reprendre. Le bien se communique. Ça ne se garde pas pour soi. Ça se donne, le bien. Et parce que le bon Dieu est si bien, la bonté même, il se donne à l'homme par la vie et par la vertu. Il se donne à lui-même par la vie et par la vertu. Il veut que l'homme vive à son image et à sa ressemblance. Que l'homme ne soit pas uniquement sa créature, mais qu'il soit beaucoup plus savoir son enfant. Et que cet enfant adoptif vive de la vie même de Dieu, qui possède les mêmes perfections dont possède son Père. La vie chrétienne, c'est ça. Vivre de Dieu. Vivre Dieu. Dans sa vie et dans ses perfections. Et donc on peut dire que le bon Dieu cherche à réaliser une communion de vie entre lui-même et nous. Il le veut. Il le cherche. Le père Carmel disait ceci, donc dans son livre selon l'Évangile, il parlait de l'entretien entre Jésus et la Samaritaine. Il disait ceci pour la vie chrétienne. une eau vive, dites-vous, parce que vous admettre en nous, ce n'est pas accepter une loi morte ou un formalisme, mais recevoir une vie qui prend en elle-même, qui fond et dessous et recréer en elle-même les éléments les plus vivants de notre vie. Une vie qui est comblante, parce qu'au fond, elle nous entraîne tout entier et qu'elle nous suffit. Une eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, parce que l'on ne peut vivre de votre vie sans être relié à l'éternité. L'éternité vient au-dedans de nous, les trois personnes divines. C'est un jaillissement vertigineux, sans mesure, qui s'élève de la terre. Donc la vie chrétienne, c'est ça. C'est vivre la vie divine. En tant que créature, mais plus en tant qu'enfant de Dieu. Et pour réaliser ceci, ce dessein miséricordieux, ce dessein inouï, pour reprendre sa vie et ses perfections dans l'homme, le bon Dieu a créé la famille. Pour ça, oui, la famille a été créée par le bon Dieu. Il le veut. Quand on voit Adam et Ève, c'est le bon Dieu qui les a joints ensemble, qui les a unis ensemble pour former la première famille. Dans le sacrement du mariage, c'est le bon Dieu qui unit un homme avec une femme pour les faire participer à sa vie et pas les parents, faire participer des enfants à la vie divine aussi. La famille était créée par le bon Dieu. La famille, c'est le noyau, le berceau de toute vie humaine. Elle est la cellule vitale, fondamentale et remplaçable de toute société. La famille est l'école de vie naturelle et surnaturelle. Naturelle, l'enfant est le fruit de l'amour de ses parents. Et oui, l'enfant, c'est ça. C'est un fruit d'amour entre l'homme et son épouse. Nos parents, ensuite, nous donnent la vie naturelle dans le sens, comment dirais-je, qu'ils nous nourrissent, nous revêtent, ils nous apprennent à savoir vivre, ils nous soignent quand on nous tombe malade. C'est une école de vie, la famille. Sa vie, sa bouche, est dans le bon sens. Ensuite, la vie surnaturelle, c'est nos parents qui nous apportent au fond baptismaux. C'est nos parents qui nous préparent à notre première communion, notre première confession. Par l'éducation chrétienne, quotidienne, ils veillent à la formation de notre âme. Ainsi, ils nous disposent à la vie de la grâce et à la pratique de la vertu. Tout ça, ça se passe dans la famille. Donc, école de vie et école de vertu. Le pape Pie XII disait ceci, donc en 1943. L'éclosion de la vie humaine dans la famille est un grand mystère de la nature et de Dieu. Un mystère qui enveloppe l'enfant à sa naissance et qui le place entre deux mondes, entre le monde visible de la nature et le monde invisible de Dieu, le créateur de la nature et de l'âme immortelle dont chaque homme tient la vie. D'ici à quelques mois, donc il parlait à des jeunes époux, s'il plaît à Dieu, le foyer que vous avez fondé s'illuminera d'une joie nouvelle. Un enfant, le premier fruit de votre amour, vous sourira de son berceau. Vous contemplerez avec ravissement ce petit visage. Vous vous demanderez ce que cherchent bien ses petits yeux, ce qu'il désire. C'est vous qu'il cherche et qu'il désire. Et c'est même quelque chose de plus. C'est Dieu qu'il cherche et qu'il désire. Donc la famille, c'est bien une vie naturelle et surnaturelle, école de vertu. La famille devrait être ici-bas le commencement de bonheur éternel. Bienheureux ceux qui habitent dans la maison du Seigneur. Voilà, je dirais, le côté spéculatif, peut-être un peu trop théorique. Mais maintenant, passons à des choses très pratiques et, pour ainsi dire, des choses vécues. Pour être une vraie école de vie et de vertu, le foyer chrétien doit se modeler sur quelque chose de très concret. L'exemple même du foyer chrétien, la Sainte Famille. Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Comme le disait le pape Léon XIII, donc dans les leçons des Martines de la fête de la Sainte Famille, dans la vie cachée à Nazareth, le bon Dieu a offert au monde, l'auguste spectacle d'une famille divinement constituée, en laquelle tous les hommes peuvent contempler l'exemplaire le plus parfait de la société domestique, ainsi que de toute vertu et sainteté. Cette famille très sainte était destinée à en devenir le modèle pour les autres familles. Le labeur sont en effet commun avec la sainte famille et commun avec elle les soins que leur impose la vie quotidienne. Ainsi dit le pape Léon XIII, pour finir, on ne peut rien envisager de plus utile aux familles chrétiennes que l'exemple de la sainte famille, lequel comprend la perfection et l'ensemble de toutes les vertus domestiques. Implorés ainsi au sein des familles, Jésus, Marie et Joseph le viendront en aide. Ils y entendront la charité, y régleront les mœurs et provoqueront les membres à l'imitation de leurs vertus. Le secours adoucira et rendra supportables les mortelles épreuves qui de tous côtés nous menacent. Voilà, il faut vivre ici-bas, reproduire ici-bas la sainte famille, dans chaque famille, à sa façon peut-être, avec les différences évidentes. Mais la famille chrétienne doit reproduire en elle-même les traits de la Sainte Famille. Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus. Vie de famille, évidemment, basée sur le sacrement du mariage. On nous fait croire de nos jours que le mariage, oui, c'est assez important, un contrat entre deux partenaires, mais on a perdu ce côté sacré du mariage. Le mariage, c'est beaucoup plus qu'une union naturelle, même, je dirais, un contrat social entre un homme et une femme. C'est beaucoup plus. Le mariage, c'est un sacrement. C'est une union sacrée entre l'époux et son épouse. C'est un amour réciproque qui est voué et consacré devant le bon Dieu. Le mariage, c'est ça, et c'est pourquoi le mariage est la base de la famille. Déjà, une union sacrée qui ouvre, je dirais, la porte à beaucoup d'autres grâces pour tous les membres de la famille. Juste pour vous montrer ça, une citation encore du pape Pie XII, qui parlait encore à ses jeunes mariés. Il disait ceci: heureux êtes-vous aux nouveaux époux, vous qui, respectueux de la loi divine, en avez compris la sainteté, goûté la douceur, et qui, par le sacrement, n'avez pas hésité à sceller devant Dieu et devant les hommes le pacte de dons réciproques pour la vie, le pacte de la tendresse dévouée jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'oubli de vous-même, le pacte de la tendresse féconde qui aspire à fleurir et à fructifier dans une famille nombreuse et bénie. Suivant la loi de Dieu, vous qui proclame l'indissolubilité du mariage, vous avez inauguré et commencé votre marche dans la nouvelle vie. Vous avez juré d'avancer et de cheminer conformément à cette loi parce que vous l'acceptez non comme un jus dur, mais comme un jus d'amour, non comme une contrainte imposée à votre volonté, mais comme la sanction céleste de votre immuable affection réciproque, non comme l'imposition d'un esclavage moral, mais comme la garantie divine, comme une source de confiance indéfectible contre tout danger qui viendrait menacer le solide roc de votre union. Mariage, comme ça, est vraiment base d'une sainte famille. Il faut se souvenir des fois, pour les mariés, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes vraiment, en quelque sorte, les consacrés, oui, l'un à l'autre. Devant le bon Dieu, vous êtes des consacrés, vous vous êtes consacrés l'un à l'autre pour la vie, pour cheminer ensemble vers le ciel. C'est une grande vocation que d'être marié, d'être dans une famille, d'être les parents. Après cette longue introduction, nous arrivons enfin à notre premier point. La famille chrétienne doit être un sanctuaire. Oui, c'est pas juste l'Église qui devrait être un sanctuaire. C'est la famille qui est un sanctuaire. Une image vivante de l'Église, un sanctuaire domestique où le bon Dieu soit aimé et honoré. Semblable à la famille de Nazareth, le foyer chrétien doit être une demeure terrestre de sainteté, comme s'il était en quelque sorte un temple. Comme le disait sa sainteté le pape XII lors d'un entretien avec encore des jeunes maris, nous sommes les enfants des saints, chers fils, il faut bien vous persuader que votre nouvelle famille pourra et devra être une famille sainte, c'est-à-dire inviolablement unie à Dieu par la grâce. Cette demeure où chacun a le vif désir de se retrouver, chaque soir après les travaux, les fatigues, les occupations de la vie quotidienne, ils l'aiment, ils en prennent soin comme un sanctuaire, et chacun selon ses propres aptitudes et ses capacités personnelles s'ingénie à l'embellir et y fait régner l'ordre et la paix. Dans l'intimité d'un tel foyer, ils échangent les nouvelles des petits événements de la journée qui par ailleurs pourraient sembler sans valeur, mais non pas là où, au milieu de perdre son temps, son argent, sa tranquillité, parmi des gens inconnus et indifférents, chacun s'intéresse au bien de tous les autres. La famille chrétienne, c'est ça. Un sanctuaire où chacun aime le bon Dieu, garde sa loi, grandit dans la grâce, profite de la vie naturelle et surnaturelle, mais pour tous les autres. On cherche le bien de tous les autres. Donc la vie chrétienne doit être un sanctuaire. On ne peut pas se dire, voilà, c'est une maison, on se trouve ensemble, ça va plus ou moins. Non. La famille chrétienne devrait être un sanctuaire. Une extension en quelque sorte de l'Église, oui, parce que nous sommes chrétiens à la maison ou à l'Église. La famille chrétienne est un sanctuaire. On pourrait donc se poser une question, pourquoi donc manque-t-il la paix dans beaucoup de familles? Et je pense, on pourrait répondre ceci, qui est un peu fort, mais je crois juste, parce que Dieu ne se trouve pas assez présent, ou même à la peut-être absent de ses foyers. C'est un peu fort, mais je pense que c'est vrai. Nous aurons l'ordre, nous aurons la charité, nous aurons la paix dans la mesure que le bon Dieu habite nos foyers. Et dans la mesure qu'il n'habite pas, pas beaucoup de choses, mais en général par notre égoïsme, notre manque de charité, nous aurons pas la paix, mais les problèmes. La discorde, les difficultés, je dirais, entre les membres de la famille. Le pape XII disait ceci à propos des discordes dans des familles. Il y a des familles auxquelles rien ne fait défaut de ce qui devrait rendre heureux les hommes, et cependant elles ont le tourment et l'agitation dans le foyer. Et peu désunies, trahison de la fidélité conjugale, enfants sans respect et rebelles, litige, rancœur, en un mot, désordre. Quelque chose n'est pas à sa place. Regardez bien, il manque Dieu. Dieu est étranger dans ses maisons. On ne prie pas, on ne parle ni on n'agit pas sur son regard. On se passe de lui en tout, on se dresse même contre lui et contre ses commandements. Hélas, des fois dans les familles, c'est ça. Si on se dresse contre Dieu, on n'aura pas la paix. À chacun de prendre garde, de prendre soin que nos familles ne soient pas de ce type de famille-là. En définitive, une famille où le bon Dieu ne se trouve pas chez lui, où il n'est pas le roi de la maison, voire même là où il se trouve exclu, loin d'être une famille chrétienne, n'est autre qu'une famille dénaturée. Une famille qui manque gravement à sa haute vocation. Une famille chrétienne cohérente éloignera de la maison tout ce qui offense le bon Dieu. Savoir, mauvaise revue, images scandaleuses et autres. Vous ne pouvez pas permettre dans vos maisons des mauvaises revues. Et ensuite vous étonnez que ça ne va pas. Vous ne pouvez pas vous permettre dans vos maisons des images scandaleuses. Et ensuite, vous étonnez que ça ne va pas. Ce n'est pas logique. Votre maison, votre foyer devrait être un sanctuaire. Donc, n'introduisez pas des choses contre le bon Dieu dans vos foyers. Et au sujet de la télévision, je ne vais pas m'y tarder, mais je voulais juste vous citer quelques paroles encore de Pape Pie XII, qui parlait donc en 1957, quand la télévision venait d'apparaître, et il disait ceci, parce que moi, je ne sais pas si on va vous convaincre à tous de ficher par la fenêtre, ou balancer par la fenêtre votre télévision, mais j'espère qu'on va vous convaincre de ceci quand même, au moins. Irremplaçable est la vigilance de celui qui reçoit. La modération dans l'usage de la télévision, l'admission prudente des enfants selon leur âge, la formation de leur jugement sur le spectacle vu, et enfin l'éloignement des programmes qui ne conviennent pas, incombe comme un grave devoir de conscience aux parents et aux éducateurs. Il disait un grave devoir de conscience. Manquer en ceci, c'est manquer gravement devant le bon Dieu. Nous savons bien que ce dernier point, spécialement pour créer les situations délicates et difficiles, et le sens pédagogique demandera souvent aux parents de donner le bon exemple, même au prix de sacrifices personnels, en renonçant à certains programmes. Mais serait-ce trop de demander aux parents un sacrifice quand se trouve en jeu le bien suprême de leurs enfants? Je crois dans le foyer, dans la maison, si vous avez la télévision, dont je ne vous recommande pas de l'avoir, mais si vous l'avez, soyez très prudents avec vos enfants, avec vous-même aussi. Faites attention à ce que vous regardez. Vous ne croyez pas que ça peut suivre l'âme, des images qui passent à la télévision. Vous ne croyez pas que ça peut choquer vos enfants sans qu'ils vous le disent. Mais ça peut revenir plus tard, dans les habitudes peut-être même de péché de vos enfants. Donc soyez prudents et soyez, comment dirais-je, généreux dans vos sacrifices. Il faut vous sacrifier des fois pour le bien de vos enfants. Mais oui, et surtout avec la télévision, il faut ça. Le pape disait en 1957, après 40 ans, il y a eu une petite évolution un peu néfaste dans la télévision. Donc soyons prudents. Une famille cohérente, chrétienne, prendre soin par contre d'orner la maison avec des images pieuses qui aideront chacun de respirer toujours un peu plus l'air frais de la grâce et de l'amour de Dieu, de remplir les rayons de la maison avec de bons livres, de vaquer à des loisirs sains et joyeux. Votre maison, votre foyer devrait être un sanctuaire, donc n'introduisez pas des choses contre le bon Dieu dans vos foyers. Et au sujet de la télévision, je ne vais pas m'y tarder, mais je voulais juste vous citer quelques paroles encore de Pape Pie XII, qui parlait donc en 1957, quand la télévision venait d'apparaître, et disait ceci, parce que moi, je ne sais pas si on va vous convaincre à tous de ficher par la fenêtre, ou balancer par la fenêtre votre télévision. Mais j'espère qu'on va vous convaincre de ceci quand même, au moins. Irremplaçable est la vigilance de celui qui reçoit. La modération dans l'usage de la télévision, l'admission prudente des enfants selon leur âge, la formation de leur jugement sur le spectacle vu, et enfin l'éloignement des programmes qui ne conviennent pas, incombe comme un grave devoir de conscience aux parents et aux éducateurs. Il disait un grave devoir de conscience. Manquer en ceci, c'est manquer gravement devant le bon Dieu. Nous savons bien que ce dernier point, spécialement pour créer les situations délicates et difficiles, et le sens pédagogique demandera souvent aux parents de donner le bon exemple, même au prix de sacrifices personnels, en renonçant à certains programmes. Mais serait-ce trop de demander aux parents un sacrifice quand se trouve en jeu le bien suprême de leurs enfants? Je crois dans le foyer, dans la maison, si vous avez la télévision, dont je ne vous recommande pas de l'avoir, mais si vous l'avez, soyez très prudent avec vos enfants, avec vous-même aussi. Faites attention à ce que vous regardez. Vous ne croyez pas que ça peut suivre l'âme, les images qui passent à la télévision. Vous ne croyez pas que ça peut choquer vos enfants sans qu'ils vous le disent. Mais ça peut revenir plus tard, dans les habitudes peut-être même de péché de vos enfants. Donc soyez prudents et soyez, comment dirais-je, généreux dans vos sacrifices. Il faut vous sacrifier des fois pour le bien de vos enfants. Mais oui, et surtout avec la télévision, il faut, ça, le pape disait en 1957. Après 40 ans, il y a eu une petite évolution un peu néfaste dans la télévision. Donc soyons prudents. Une famille cohérente, chrétienne, prendre soin par contre d'orner la maison avec des images pieuses qui aideront chacun de respirer toujours un peu plus l'air frais de la grâce et de l'amour de Dieu, de remplir les rayons de la maison avec de bons livres, de vaquer à des loisirs sains et joyeux. Même pour les livres, faites attention. Qu'est-ce qu'on ne voit pas des fois dans les familles, sur les rayons? Et si votre enfant, par hasard, prendrait ce livre-là pour le lire, qu'est-ce que vous allez faire? C'est trop tard. Il a lu. Et peut-être, sans le dire, il était scandalisé parce que cet enfant était encore pur. Faites attention. Des mauvais livres n'ont pas place dans une famille chrétienne. Ils ont leur place dans la plus belle de chaque famille. Pour commencer, ensuite, loin de la maison. Pas de mauvais livres à la maison. Et pour ça, oui, il faut faire des sacrifices. Une telle famille fuira l'esprit du monde et tâchera de vivre à la hauteur de sa vocation céleste. Donc, premier point, la famille chrétienne doit être un sanctuaire, dans le sens le plus large et entendu qu'on pourrait imaginer. Oui, la famille n'est pas une église. On ne vous demande pas de transformer vos maisons en église. Il faut même un peu de prudence avec les images pieuses. Autant que, pas plus que. Une maison, c'est une maison quand même. Ce n'est pas une église. Mais quand même un peu. Et même un peu plus que peu. Pour que nous puissions respirer ensemble un peu l'air du ciel. Déjà, ici-bas. Deuxième point. Une famille chrétienne se veut féconde. Oui, la famille, c'est le berceau de la vie. La famille chrétienne a une mission presque divine. Ceci était dit par encore Pie XII. Mais la famille chrétienne a une mission presque divine. Celle de transmettre et d'allumer l'envie. Comme se propage le feu sacré en passant de l'un à l'autre dans les mèches des cierges qui se dressent sur l'autel. Époux, parents et enfants, mystère de l'amour terrestre, Eucharistie, mystère de l'amour divin qui alimente et perfectionne la vie surnaturelle, qui fait fleurir ce parterre choisi de la famille, haussant jusqu'à la cime la plus sublime, la fonction du mariage qui consiste à remplir la terre d'enfants de Dieu, dans le balbutiement desquels le Père Tout-Puissant et Éternel devrait reconnaître la voix de son divin Fils. Mais c'est ça, vos familles, c'est ça. Vous avez des enfants pour peupler le ciel. Et dans la voix de vos enfants, par la grâce divine, une fois baptisés, le Père Céleste reconnaît la voix de son divin Fils. Loin de nous, cet esprit du monde, ces sirènes trompeuses qui veut nous faire croire qu'un enfant est une malédiction pour une famille, que ça va pas. Un enfant de plus, mais vous rendez compte? Et la surpopulation de la terre, mais oui, tu parles. Il y a encore la place. Les familles chrétiennes sont le berceau de la vie. La naissance d'un enfant est toujours une bénédiction divine, toujours. Comme disait le bon Dieu lui-même, croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. Comment pourrait-on imaginer qu'un enfant est une malédiction si le bon Dieu a dit ceci? Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. Ces sirènes du monde moderne sont trompeuses. Ne les écoutez pas. Monsieur Lefebvre disait ceci au cours de son homélie pour son jubilé sacerdotal à Paris en 1979. Éloignez, je vous en supplie, tout ce qui empêche les enfants de venir dans votre foyer. Il n'y a pas de plus beau don que le bon Dieu puisse faire à vos foyers que d'avoir de nombreux enfants. Ayez des familles nombreuses. C'est la gloire de l'Église catholique que la famille nombreuse. Partout, les familles nombreuses étaient la joie de l'Église et la prospérité de l'Église. Ce sont autant d'élus pour le ciel. Alors, ne limitez pas, je vous en supplie, les dons de Dieu. N'écoutez pas ces slogans abominables qui détruisent la famille, qui ruinent la santé, qui ruinent le ménage et qui provoquent les divorces. Ayons des familles nombreuses. La vie est un don incommensurable. Des familles nombreuses sont bénies davantage par Dieu. Elles vivent dans son intimité. Elles sont chéries et estimées par son Église comme les plus précieux trésors. Là où on rencontre fréquemment les familles nombreuses attestent la santé physique et morale du peuple chrétien, la vive foi en Dieu, la sainteté féconde et heureuse du mariage catholique. Et donc le pape Pie XII disait ceci avec une réunion avec des familles nombreuses italiennes à Rome. Quant à vous, parents et enfants de familles nombreuses, continuez à donner avec une ferme sérénité votre témoignage de confiance en la providence divine, certain qu'elle ne manquera pas de la récompenser par le témoignage de son assistance quotidienne et, au besoin, par des interventions extraordinaires dont beaucoup d'entre vous ont une heureuse expérience. Eh oui, si le bon Dieu donne la vie, il va donner les moyens pour nourrir la vie, pour vêtir la vie, pour éduquer la vie. Une famille nombreuse, c'est, comme dirais-je, une incarnation de l'espérance en Dieu. Que c'est lui qui commande les événements et c'est lui en qui nous avons confiance. Au cours de tous ces événements, c'est lui qui saura toujours prendre profit de ces événements pour lui-même, pour sa gloire et pour nous-mêmes, pour nos familles. Je voulais juste citer un petit épisode dans la vie donc, de ces enfants de Fatima, dont le traité, enfin les extraits tirés de ce livre de Frère Michel, la Sainte Trinité. Et donc c'est la mère de Lucie, Marie-Rosa, qui racontait au curé d'Olival ceci de son mari Antonio. Quand je lui dis que Dieu allait nous envoyer un septième enfant, il répondit, ne t'afflige pas, c'est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas pour cela que le pain manquera dans le tiroir, ni l'huile dans la cruche. C'est beau quand même ça. Cette confiance dans la providence. Donc, ayons des familles nombreuses. Vous êtes une prédication vivante de la foi chrétienne catholique. Et le monde, bien que peut-être il ne vous comprend pas, il a votre témoignage de votre foi en Dieu, pas vos familles. Donc, n'ayons pas peur de ces dons de Dieu que sont les enfants. En plus, vous le savez bien, les parents ont également le devoir d'éduquer leurs enfants. L'éducation, comme le disait Platon, C'est l'art de donner au corps et à l'âme la beauté et la perfection dont ils sont capables. On va revenir un peu plus tard avec la question des enfants. Donc, deuxième point, une famille chrétienne se veut féconde. Elle a confiance en Dieu, dans sa providence. Et donc, elle veut peupler le ciel avec des enfants, avec d'autres Jésus-Christ, racheté par le baptême, devenu enfant de Dieu. Troisième point, les responsabilités de chacun dans la famille, pour qu'elle soit vraiment école de vie et de vertu. On va voir les devoirs du père, de la mère et des enfants. On ne peut pas tout dire, bien que moi je le sais bien, comme vous le savez. Donc un choix s'impose. On verra ensemble certaines de ces choses, certaines de ces responsabilités, et faute du temps, on laissera de côté d'autres. Tout d'abord, le devoir du père de famille. C'est lui qui détient la place de Saint-Joseph dans la famille. En résumé, il lui incombe le devoir d'assurer la subsistance et le bonheur de sa famille par son travail. Il a le devoir de gouverner sa famille par les décisions qui engagent tout l'ensemble. Il est aussi responsable du bien spirituel de la famille, en la guidant vers le ciel, en présidant aux prières familiales et en faisant rayonner sur les siens l'exemple de ses vertus. Il a le devoir d'aimer son épouse, de lui témoigner estime et respect, reconnaissance même, et de l'aider dans ses tâches ménagères ou éducatrices. Mais oui, c'est ça un père de famille. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire. C'est beaucoup et c'est magnifique. Quand on rencontre les vrais pères de famille, nous des prêtres, je dirais, on se trouve en admiration. Parce que le prêtre devrait être lui-même un père pour les âmes. Nous avons tous quelque chose à prendre de Saint-Joseph. Mais un vrai père de famille, c'est quelque chose de magnifique. Quelque chose qui fait sourire le ciel. Les anges dans le ciel, de voir un père de famille digne de ce nom. On va voir juste un texte de Léon XIII. Donc, pour voir qu'est-ce que devait être un père de famille, comme Saint-Joseph. Joseph brille entretenu par la plus auguste dignité du fait qu'il était, de par la volonté divine, le gardien des fils de Dieu, regardé par les hommes comme son père, d'où il résultait que le Verbe de Dieu était humblement soumis à Joseph et attentif à sa parole, et que lui rendait tous les devoirs que les enfants sont obligés de rendre le père. De cette double dignité découlaient d'elle-même les charges que la nature impose au père de famille, de telle sorte que Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il exerça de fait ses charges pendant tout le cours de sa vie mortelle. Il s'appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son épouse et le divin enfant. Il gagna habituellement par son travail ce qui était nécessaire à l'un et à l'autre pour la nourriture et le vêtement. Il écartait le péril de mort créé par la jalousie d'un roi en recherchant un refuge pour la sécurité. Dans les incommodités des voyages et les amertumes de l'exil, il fut constamment le compagnon, l'aide et le soutien de la Vierge et de Jésus. Père de famille, vous l'êtes. Vous êtes d'autres Saint-Joseph. Vivez en tant que tel. Il nous faut des hommes forts, il nous faut des hommes pieux. Je dirais que c'est ce qui manque le plus. La force liée à la piété. Non pas les doucereux, on ne vous le demande pas, rassurez-vous. Les hommes forts, mais pieux, qui savent prier, et pas juste pour donner, je dirais, un exemple, mais qui aiment prier, qui veulent prier, qui montre cet exemple d'une âme vivante de Dieu pour les enfants, et pas que la mère qui fait ça. Vos enfants ont besoin des pères chrétiens, de vous voir pieux et forts. Donc soyons, enfin soyez, pieux et forts. Saint Pédis disait un père devrait être bon. C'est la bonté qui en quelque sorte exprime le mieux. Qu'est-ce que c'est que d'être père? La bonté. Donc, pour que les pères de famille soient bons et pieux, qu'ils se mettent à genoux, habituellement, volontiers, pour prier le bon Dieu. On a besoin de ces hommes-là, je vous en assure, dans les familles. Un homme de famille, un père de famille, doit aussi témoigner à la mère de ses enfants le respect et l'estime qu'elle mérite. Il doit reconnaître les difficultés et les peines de son épouse. Et oui, il n'y a pas que vos problèmes dans la vie. Il y a aussi votre épouse, qui des fois est bien fatiguée avec les enfants. Je crois qu'on se rend pas compte qu'est-ce que c'est d'avoir tout ce petit monde qui tourne autour. C'est bien fatigant. Et oui, vous travaillez peut-être d'une façon dure pour gagner le pain quotidien, c'est sûr, et que vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué. Mais votre épouse, bien des fois, est fatiguée aussi. Il faut la prendre avec considération. Donc, juste une citation encore de pape Pie XII. L'homme n'a pas non plus le droit d'oublier combien il en porte au bonheur de la vie familiale, qu'il porte en son cœur et témoigne sans cesse à la mère de ses enfants, à son épouse, par son attitude et ses paroles, le respect et l'estime qu'elle mérite. Si la femme est le soleil de la famille, elle en est aussi le sanctuaire. Elle est le refuge de tout petit en pleurs, le guide des plus grands, le réconfort de leur peine, l'apaisement de leur doute, la confiance de leur avenir. Maîtresse de douceur, elle est aussi maîtresse de maison. La considération que vous lui portez, chef de famille, il faut que vos enfants la discernent, la sentent et la voient dans votre attitude, dans votre conduite, dans vos regards, dans vos paroles, dans votre voix. On dit que les personnes mariées se distinguent des autres par les manières indifférentes ou indélicates, ou parfaitement impolie et grossière de l'homme envers sa femme. Qu'il n'en soit jamais ainsi. Au contraire, toute l'attitude de mari à l'égard de son épouse doit s'inspirer sans cesse d'une cordialité empressée, naturelle, noble et digne qui convient à un homme intègre et craignant Dieu, un homme conscient de l'inestimable influence qu'exerce sur l'éducation des enfants la bonne entente vertueuse et délicate des époux. L'exemple du père a beaucoup de puissance sur les enfants. C'est pour eux une invitation vivante et pressante à entourer leur mère et leur père même de respect, de vénération et d'amour. Oui, respectez vos épouses. Montrez devant vos enfants, n'ayez jamais peur, votre amour pour votre épouse, pour qu'ils la voient, pour qu'ils la sentent, et pour qu'ensuite, ils reproduisent. L'homme, donc, à la maison, doit prendre part dans le travail du foyer. Dans la maison, vous avez une tâche à accomplir. Vous êtes plus fort et souvent plus habile à manier les instruments et les outils. Je regrette, mais avec des choses qui sont lourdes, c'est encore vrai. L'homme a plus de force. Il s'agit de prendre part à la sollicitude de votre épouse, souvent accablée de soucis et de travaux. Il s'agit de donner un coup de main qui vienne bien à propos, ce qui serait pour elle une aide, un soulagement, et pour vous une distraction et un délassement. Mais oui, n'ayons jamais peur d'aider avec le travail dans le foyer. Vous le faites de toute façon. Mais soyez, comme dirais-je, convaincus que c'est un vrai soulagement pour votre épouse de voir son mari qui s'intéresse au foyer, qui ne va pas toujours boire dans le bistrot, et qui s'intéresse à la famille, qui vit pour la famille et pour elle, qui n'est pas juste là en attendant de faire la cuisine et éduquer les enfants tout seul. Ça, ce n'est pas une famille chrétienne. Ça, c'est une famille, je pense, mais pas chrétienne. Soyons des bons pères de famille, des bons maris de vos épouses. Ensuite, les devoirs d'une mère chrétienne, celle qui détient la place de la Sainte Vierge Marie dans la famille. Elle doit être la maîtresse de la maison, reine et gardienne de la famille, soumise à son mari de manière affectueuse et confiante, et s'est dévouée pour l'éducation de ses enfants, surtout dans les premières années. Je pense qu'il faut insister avec un point ici, enfin peut-être plusieurs, mais pour commencer, oui, dans la famille, le chef, c'est le père. C'est comme ça. C'est le bon Dieu qui a décidé ainsi. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas plus saintes que les hommes, parce que souvent, elles le sont. On le remarque d'ailleurs. Mais dans la famille, le père est le chef. Dans la sainte famille, on voit bien, Saint Joseph prenait les décisions, bien qu'il était le moins saint dans cette famille. Mais oui, c'était pas l'enfant Jésus, bien qu'il était la sagesse incarnée, c'était par la Sainte Vierge Marie, qui est la mère de Dieu, la plus parfaite de toutes les créatures, au-dessus de tous les anges et tous les hommes. C'était Saint Joseph, chef de la sainte famille. Évidemment, il faut que les pères, les maris, exercent leur autorité avec la bonté. À ce moment-là, je crois que pour une épouse, ce n'est pas difficile d'avoir une soumission confiante et, comme dirais-je, il faut que je trouve le mot, affectueuse. La mère, c'est le cœur de la famille. Il en faut bien deux, hein. Je pense que dans notre vie nous-mêmes, il n'y a pas que la tête. La tête a besoin du cœur. Sans le cœur, la tête, c'est bon rien. Le cerveau ne marchera pas sans son cœur. Mais également, le cœur a besoin de sa tête. Il faut que les deux travaillent ensemble, qu'il n'y ait pas de dispute, surtout pas devant les enfants. S'engueuler entre les enfants, devant les enfants, c'est pas très pédagogique quand même. Ils vont pas vous respecter comme ça. C'est là les difficultés, les disputes des fois, il faut s'arranger, pas devant les enfants. Oui, il faut se dominer, il faut se maîtriser. C'est pas toujours facile, on a quelque chose sur le cœur, on veut que ça explose. Mais pas d'une façon habituelle. De faire les disputes devant les enfants, ça les trouble. Je vous assure, ça les trouble. Ils ne vous diront pas pour ce moment, mais plus tard dans la vie, ils vont se souvenir de ça. Ne vous disputez pas devant les enfants. Ça ne le regarde pas, et donc ne le faites pas devant eux. Essayez de vous arranger entre vous, et d'une façon, évidemment, charitable. Donc la mère, c'est elle qui éduque. Mais oui, rien à voir. Hein. On voit ça dans la famille, un enfant est plus attiré à sa maman quand il est petit. Mais oui, ça se constate partout. On veut être avec maman. Parce que c'est elle qui nous nourrit, qui nous protège, qui fait tout, qui même fait des jeux avec nous. C'est elle qui fait ça parce que papa, la plupart du temps, n'est pas là. C'est maman. Même c'est quelque chose dans la nature qui est plus forte que nous-mêmes. C'est la maman qui éduque les enfants. Et c'est une magnifique vocation que d'être mère chrétienne. Magnifique. Vous avez vraiment dans votre main, plus que peut-être le papa, l'âme de vos enfants. C'est vous qui les formez. Plus, encore plus que votre mari. Encore le pape Pius disait ceci. Si le baptême fait des tout-petits des enfants de Dieu et suffit pour en faire des anges du ciel avant l'usage de la raison, à la juste connaissance du bien et du mal, l'éducation doit cependant être commencée dès l'enfance, car les bonnes inclinations naturelles peuvent dévier lorsqu'elles ne sont pas dirigées ou bien dirigées et développées par des actes bons, qui les transforment par la répétition en vertus proprement dites, sur la conduite de l'intelligence et de la volonté au-delà de l'âge de l'enfance. N'est-ce pas la discipline vigilante des parents, donc la maman ici, qui forme et façonne le caractère des enfants? N'est-ce pas l'exemple de la conduite vertueuse qui indique aux enfants eux-mêmes le chemin du bien et de la vertu et garde en eux le trésor de la grâce et de toutes les vertus qui l'accompagnent reçues dans le baptême? Et oui, c'est fatigant. J'imagine que une mère de famille, et je l'ai vu souvent à la maison, chez nous, est fatiguée. Parce que éduquer, c'est difficile. Les enfants ne sont pas faciles. Mais je dirais, là-dedans se trouve toute la beauté, toute la bonté de ce que vous faites. Parce que ce n'est pas facile. Mais cet enfant vaut la peine. Pour que cet enfant, qui des fois est très désagréable, un peu lui-même peut-être, soit transformé en image de Dieu, en fils de Dieu. Votre vocation est magnifique. Et donc, ne vous laissez pas des fois peut-être abattre, être découragé par les difficultés que vous avez rencontrées avec les enfants de toute façon. Nous-mêmes, on n'est pas tellement facile. Un enfant est encore moins facile. Ne vous découragez pas. Vous aurez les grâces d'État. Vous les avez déjà. Continuez. Formez quotidiennement, même dans les difficultés, l'âme de vos enfants. Vous savez que des fois, il faut taper en forme, des fois, il faut peindre. Et des fois, c'est plus agréable que d'autres. Mais c'est toujours pour faire la même chose. Former Jésus-Christ dans cet enfant. C'est ce que je veux. C'est ce que je fais. Je veux coopérer. Comme j'ai coopéré pour créer cet enfant, je veux coopérer maintenant pour qu'il soit formé à l'image même de Dieu. Qu'il soit vraiment un enfant, non pas uniquement de moi, mais de Dieu. Magnifique mission, magnifique vocation des mères chrétiennes. Et juste pour finir avec la question des épouses, des mères, je voudrais citer le cardinal Pi, qui est évêque de Poitiers dans le 19e siècle, qui avait un entretien avec une religieuse une année après la mort de sa maman. Et donc il expliquait plusieurs choses, et il parlait à ces religieuses de sa maman. Et c'est vraiment magnifique ce qu'il disait, parce que chaque maman chrétienne devrait être la même chose que la maman de cardinal Pi. Il est écrit qu'à l'œil de Dieu, il appartient de sonder les abîmes, et par conséquent de sonder le cœur de l'homme qui en est un, donc un abîme. Mais l'abîme insondable entre tous, l'abîme sans fond, c'est le cœur de la mère. Abîme d'abnégation, de sacrifice. Abîme de générosité, de l'élection forte comme l'amour, que dis-je, plus forte que l'amour, parce qu'elle n'hésite pas à affronter mille maux pour l'enfant qu'elle aime. Jamais, non jamais, à ma mère, ma voix ne saurait exprimer ce que mon cœur vous a voué d'admiration, ce qui vous doit de gratitude en souvenir de ces années de souffrance durant lesquelles l'amour maternel vous a soutenu dans un héroïque labeur. Et continuez. C'est une femme vaillante. Dans sa personne, elle offrait les principaux traits de la femme forte telle qu'elle est décrite au livre des Proverbes. Remplir les devoirs de son sexe avec un cœur viril, opérer par le conseil de ses mains, c'est-à-dire appuyer le commandement par l'exemple et l'action, pourvoir à la nourriture des membres de la famille, faire la part des pauvres et tenir la main étendue vers les familles indigentes, prévoir de loin et acquérir chaque chose au temps propice, veiller aux besoins divers qu'amène la diversité des saisons, avoir les cœurs ouverts sur toutes les parties de la maison et ne pas manger son pain dans la paresse. Y porter le relief que dans la force du caractère et l'agrément de l'esprit, n'ouvrir la bouche que pour parler le langage de la raison, tempéré par celui de l'indulgence, pouvoir au dernier jour, sourire à sa tâche accomplie. Enfin, parce que la crainte de Dieu a précédé à tous les actes de sa vie, être universellement proclamée bienheureuse à l'heure du trépas et laisser après soi dans ses œuvres un sujet permanent de louange. Une mère chrétienne, c'est ça. Je vous assure, vos enfants seront, s'ils ne sont pas encore, reconnaissants. Vous ne pouvez pas enlever, enfin, c'est quelque chose de très naturel, mais c'est très difficile d'enlever du cœur d'un enfant l'amour qu'il porte pour sa maman. Donc ça vaut la peine, allez-y. Ça vaut la peine. Vous aurez à ce moment-là les enfants dignes de tous vos labeurs et de toutes vos fatigues. Comme j'ai dit, il ne doit pas avoir de conflit entre les charges et devoirs du mari et de son épouse, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une complémentarité. Et pour ça, je voudrais juste citer de Fatima un épisode magnifique qui s'est passé dans la famille de Lucie pour montrer qu'est-ce que c'est la bonne entente entre des époux chrétiens. Donc Lucie raconte une histoire. Elle était dans la cour en train de jouer et un pauvre est arrivé pour demander l'aumône. Et donc je vais continuer l'histoire. J'entrais à la maison et je dis à mon père, il y a là un pauvre qui demande l'aumône. Mon père se leva, alla vers la cheminée et avec son couteau coupa la corde d'un boudin, enfumé la charcuterie sur le monte de la cheminée et son boudin à la main demande à ma mère, « Regarde, je peux donner ça à ce pauvre. Ça ne va pas nous faire faute. » Ma mère répondit, « Tu peux. Ce que nous donnons aux pauvres ne nous fait jamais faute. » Mon père, content, alla au portail, porta son morceau de boudin au pauvre. Celui-ci, en le voyant, éleva les mains et dit à notre père et à « Je vous salue Marie. » Le pauvre, quand il eut terminé, dit, « C'est pour vous et pour votre petite. Que le bon Dieu vous donne le bonheur. » Mon père répondit, « Adieu mon frère, à une autre fois. » Et il revint à la maison. Je courus derrière lui et dis à ma mère, « Le pauvre a prié pour papa et pour moi, pour que Dieu nous donne le bonheur. » Ma mère répondit, « Et pour moi, rien. » Je ne savais que dire. Alors mon père dit, « Pour toi aussi, car toi et moi sommes un. Tout ce qui est à moi est à toi et nos enfants. » Maman répondit en souriant, « Comme ça c'est bien. » Et ils continuèrent leur humble travail et leur amicale conversation, tandis que moi je retournais dans la cour pour jouer et surveiller si notre pauvre allait venir demander l'aumône. C'est magnifique. On voit que les familles chrétiennes ont existé, ont vécu. Magnifique. Quelle belle entente de charité entre donc le papa et la maman de la famille. Sachez que vos enfants ont besoin de votre bon exemple, de votre foi, votre espérance, votre charité. Parce que comme ça, ces vertus vont s'incarner pour vos enfants. S'ils les entendent que l'Église, s'ils les voient de temps en temps, mais si ces vertus ne s'incarnent pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir, vos enfants? Songez que l'âme de vos enfants sera le reflet de la vôtre, toujours. Des saints parents, ça fait des saints enfants, et pour l'avenir, des saints pour le ciel. Songez-y, toujours. Et pour finir, on arrive, rassurez-vous, au devoir des enfants, ceux qui détiennent la place de l'enfant Jésus dans la famille. Les enfants doivent, c'est un devoir, à leurs parents obéissance, respect et reconnaissance, suivant l'exemple de l'enfant Jésus qui était obéissant. On lit dans l'Évangile, et il leur était obéissant. Les enfants doivent apprendre à penser aux autres, à rendre service, de pratiquer la charité, de ne pas être rancunier, de savoir pardonner les fautes les uns des autres, de vaincre leur amour propre, leur égoïsme. Dans la famille, ce n'est pas chacun pour soi, c'est chacun pour tout le monde, pour toute la famille. Évitons la voie de facilité avec les enfants. Peut-être, dans le court terme, oui, ça donne quelques fruits. On a moins d'histoires. Il semble. On a moins de problèmes, mais à la longue, on a plus de problèmes. Avec un enfant, ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu veux. Des fois, oui, pour les petites choses, pour faire plaisir, effectivement, c'est même bien de faire plaisir à ses enfants, il faut bien. Mais pas toujours. Quand il est entêté, ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu veux. C'est plutôt qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu dois faire. Les enfants doivent apprendre le devoir d'État. Qu'est-ce que tu peux? Tu es capable de quoi, toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Et non pas qu'est-ce que tu veux pour te faciliter la vie, pour que ça se passe bien pour toi et pas pour les autres. Suivons pas la voie de facilité avec les enfants. Si vous devez les réprimer, réprimez-les avec, sans doute, la bonté, la douceur, mais des fois un peu aussi de la sainte colère. Il en faut bien. C'est pas les bons sauvages qui vont pousser pour devenir les hommes magnifiques comme ça. Ce ne sont pas des Rousseauistes. Non, il faut réprimer le mal et aider le bien dans les âmes de vos enfants. Donc ne cherchons pas la voie de facilité. Ça ne nous intéresse pas. On ne va pas demander qu'est-ce que tu veux à nos enfants. On va demander d'abord qu'est-ce que tu peux et ensuite, encore mieux, qu'est-ce que tu dois. Pour que notre foyer, le foyer chrétien, soit un endroit où on pratique les vertus. Chacun empressé, soucieux d'accomplir son propre devoir, de faire plaisir à tous. Donc, c'était le troisième point, les responsabilités de chacun. Afin d'imiter la Sainte Famille, le foyer chrétien doit invoquer quotidiennement la protection, l'aide à l'intercession de l'enfant Jésus, de sa très sainte mère et de son père nourricier. Une famille qui prie est une famille qui vit. Vos familles, pour devenir d'autres saintes familles, ont besoin de la prière. Si vous ne priez pas ensemble, je dis bien ensemble, votre famille ne va pas vivre de la vie divine comme il le faut. Une famille qui prie est une famille qui vit. Une famille qui se veut vraiment chrétienne récitera le chapelet ensemble. Comme le disait encore le pape Pie XII à la paroisse Saint-Félix de Centocelle, le 13 décembre 1953. La vie propre de l'âme chrétienne, comme de la famille chrétienne, est la vie divine. Pour avoir cette vie en vous, pour la conserver, pour la faire croître, vous engagez à lever votre pensée, votre cœur vers Dieu avec une des prières les plus simples et les plus complètes. Le Saint-Rosaire est en effet un des plus beaux moyens pour entrer en conversation avec le ciel. Quel spectacle charmant et très agréable à Dieu quand à la tombée de la nuit, du foyer chrétien résonnent les louanges en honneur de la Reine Auguste du Ciel. Alors la récitation du rosaire ressemble, devant l'image de la Sainte Vierge, dans une admirable union des cœurs, les parents et les enfants, qui reviennent du travail de la journée, cette prière les unit aux absents et aux défunts. Elle les attache enfin par lien d'amour d'une grande douceur à Notre-Dame, qui en mère très aimante viendra au milieu de la couronne de ses enfants, répandant avec abondance dans le foyer les dons de l'union et de la paix. Priez en famille. Si on a compris quelque chose du message de Fatima, il faut comprendre celui-ci. La prière en famille. Ce n'est pas pour les grandes fêtes, ce n'est pas pour un jour ou l'autre, c'est pour tous les jours. Et je crois pour ceux entre nous qui peut-être n'étaient pas habitués à ça comme enfants, quand on a vu ça dans d'autres familles, c'est vraiment un sujet d'admiration. Quand on voit tout le monde qui, après le repas, se met à genoux, comme ça, prend le chapelet, on va dire le chapelet pour la famille, pour ceux qui ont besoin, pour... Comme ça, simplement, mais je vous assure, ça fait quelque chose. De prier avec une grande simplicité le bon Dieu, en famille, ensemble, les uns pour les autres. Il faut prier en famille. Serez-vous bientôt la fin. La famille chrétienne, école de vie vertue, est une extension, en quelque sorte, de saint foyer de Nazareth. Et ce foyer doit se reprendre dans ce monde. Il nous faut plus que jamais des familles où notre Seigneur habite avec les siens, avec ses amis, ses enfants, là où il se trouve honoré, adoré, aimé et servi. C'est possible, c'est réalisable, mais il faut le vouloir. Vraiment, il faut le vouloir. Foyer de la vie et de la vertu, semblable à ceux dans lesquels la Providence préparait les trois enfants de Fatima. Rappelez-vous de vos grands-parents, comment ils vivaient dans la famille. C'était quand même des saintes familles en général, c'était des saintes familles, des foyers chrétiens, où on vivait le bon Dieu comme ça, on ne se posait pas trop de questions. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un idéal qui s'était jamais incarné dans la vie humaine. Ça existait. Ça existe encore, grâce à Dieu. Je vois des bonnes familles. Mais il faut que ça existe encore un peu plus. Les familles chrétiennes, Voici le témoignage donc que Lucie donna lorsqu'elle parla de la famille de sa cousine Jacinthe. Donc encore dans ce petit livre, Fatima, joie intime, événement mondial. Pour parler de l'ambiance de la famille que Dieu a choisie parmi tant d'autres pour nous donner cet ange terrestre que fut Jacinthe, je pense qu'on peut souligner l'honnêteté impeccable de cette famille, sa vie laborieuse, le travail des parents dans l'exact accomplissement de leur devoir afin de gagner le pain quotidien pour eux-mêmes et pour les enfants que Dieu avait voulu leur donner. Ils recevaient chacun d'eux non comme un poids ou une charge, mais comme un nouveau don du ciel par lequel Dieu enrichissait le foyer, comme une nouvelle âme que Dieu leur confiait pour la conduire sur le chemin du ciel. C'était un foyer modèle de paix et de joie, et tous s'entendaient bien. Où tous s'aimaient, où tous savaient se sacrifier pour le bien des autres. Foyer où la foi était vive et intensement vécue, où l'on savait inculquer dans l'âme et l'esprit des enfants dès l'aube de leur vie. Foyer où l'on observait très exactement les commandements de la loi de Dieu et de l'Église. Le dimanche, on ne travaillait pas. On assistait avec zèle au Saint-Sacrifice de la Messe et les parents amenaient leurs enfants. Ils leur enseignaient les vérités de la foi et de la doctrine chrétienne dès l'âge le plus tendre. Les faisaient assister au catéchisme de la paroisse pour les préparer à la confession, à la Sainte Communion. Chez eux, les jeûnes et les abstinences nombreux et rigoureux en ce temps-là étaient scrupuleusement observés par toute la famille. Après le dîner, le père disait les grâces, il entonnait la prière et toute la famille suivait. Ce sont des familles qui ont existé quand même. Ils ont vécu ça chaque jour. C'était pas juste pour faire, je sais pas, un peu de cinéma. Ils ont vécu ces mystères. Et donc, c'est possible. C'est possible. Puisse la Sainte Famille venir en aide à chaque foyer chrétien, que chaque foyer soit vraiment une école de vie et de vertu, une source limpide d'eau vive, cette eau vive qui n'est d'autre que la vie divine qui jaillit jusqu'au cœur des cieux. Et pour finir, j'aimerais citer cette belle prière tirée du graduel de la fête de la Sainte Famille, qui, je pense, résume magnifiquement ce qu'est la famille chrétienne. Je demande au Seigneur une seule chose, je la redemanderai, d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur, ils chanteront vos louanges dans les siècles des siècles. Pour ça, je ne vais pas dire ainsi soit-il quand même, ce n'était pas un sermon, c'était une conférence. Nous arrivons à la fin. Donc merci pour votre patience. La prochaine fois, je tâcherai d'être un peu plus court. On ne sait jamais, les miracles arrivent de temps en temps. Maintenant, je pense que tout le monde est invité avec un verre d'amitié, donc au moins un bon verre de vin. Et sinon, d'autres choses pour les amis de Saint-François de Sales. Donc vous avez ces deux cassettes qui sont maintenant en vente, des dernières, comment dirais-je, récollections, donc de Père Marziac, le jugement universel, et aussi de l'abbé Ortiz sur la destruction de Saint-Pierre de la Martinique par l'explosion de Montpellier. Donc évidemment, j'ai fait la publicité, mon devoir est fait, acheter ces cassettes, sûrement elles vous feront beaucoup de bien. Je finis avec une prière.